Parce qu'il fallait 15%, et 15%, ça a suffi pour qu'on mette 280 familles dans la misère. C'est la logique de ce que nous on appelle les nouveaux barbares. C'est-à-dire les gens qui arrivent et qui viennent dans une ville à côté de Toulouse et qui après, il n'y a plus que de la dévastation, comme au Moyen-Âge.
Et vous jouez où alors? Les usines occupées, les conflits sociaux?
Pas que, partout, parce qu'on essaie d'avoir aussi une vision humaniste. On pense que si les mots séparent les gens, on a l'impression que le chant les rassemble. Donc partout où on peut aller chanter, partout où on peut faire des concerts, on y va, pas seulement que dans le cadre ni politique, ni contestataire, aussi des concerts tout simplement, mais bien évidemment, il y a toujours une base humaniste dans
ce concert. On vous a comparé, enfin, vos sources d'inspiration, c'est Bobby Lapointe, Claude Nougaro. Ouais. Okay, ça c'est très très flatteur évidemment. Oui. Cab Calloway, je vois, très 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 flatteur. Mais les double six aussi. Tu veux parler un peu des double six? Ça me ferait plaisir d'entendre parler un peu des double six.
Malheureusement, Mimi Perret nous a quittés il y a un an et c'est un de mes grands grands regrets parce que nous on a une passion avant tout les grandes bouches. On est un trio vocal. On adore mélanger les voix, les frotter comme ça les unes contre les autres. Et bien évidemment, les maîtres absolus de ce petit jeu-là. Au niveau mondial et depuis 50 ans, c'est un groupe français pas assez connu qui s'appelle les Double Six, qui étaient fous furieux, qui reprenaient les chansons, les morceaux de jazz, jusqu'à reprendre les solos de Charlie Parker et en y mettre des mots dessus. Enfin, on imagine mal la performance technique.
Absolument.
Et voilà, c'était Mimi Perrin, et bien évidemment Eddie Lewis. On le dit pas assez, Eddie Lewis était
l'organiste, le pianiste, le loup-garou.
Et chanteur.
Oui, magnifique chanteur.
Magnifique chanteur, Eddie Lewis.
Et vous avez de la branche. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On vous écoute? Ou on va parler de Jaurès avec Gilles Clandard, s'il veut bien venir jusqu'à nous. Merci Philippe Duteuil.
Avec plaisir. Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup, Gilles Clandard. Gilles Clandard. Alors il y a un bouquin qui sort aujourd'hui même, signé de Charles Sylvestre, avec de magnifiques illustrations d'Ernest Pignon-Ernest sur Jaurès, la victoire de Jaurès. On va parler de ce bouquin. Charles m'a dit, tu peux lui poser toutes les questions, il sait absolument tout. Gilles Clandard, il y a des choses quand même qui sont préoccupantes sur Jaurès. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai là, qui est voilà. Vous connaissez évidemment cette affiche du Front National. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. C'est signé Jean Jaurès. Et cette affiche du Front National nous dit Jaurès aurait voté Front National, élection européenne 2009. Il n'y a pas que le Front National qui s'intéresse à Jaurès. Il y a également Nicolas Sarkozy qui s'intéresse beaucoup à Jaurès. Il y a un Jaurès qui passionne, qui fascine DSK, par exemple. Enfin, Jaurès est un peu comme le cochon, quoi. Tout est bon, ou comme la Samaritaine. On trouve tout ce qu'on veut dans Jaurès. Comment vous vous situez? Comment vous expliquez d'abord cette polymorphie ou morphologie de Jaurès?
Oui, je vais vous rassurer, je ne me situe pas du côté du Front National ou de Nicolas Sarkozy.
Ben ça me rassure. Je m'en doutais un peu, mais...
C'est pour ça que j'ai pu réussir à venir
jusque-là. Oui.
Il est assez facile de prendre un petit morceau de citation. Hein. Fouché disait « Donnez-moi une ligne et je vous fais pendre n'importe qui
».
Donc c'est le cas même avec cette citation que vous avez d'ailleurs donnée, qui n'est pas, entre parenthèses, qui n'est pas de Jaurès.
C'est le Front National qui le dit.
Bah oui, bon, ils ne sont pas encore excellents historiens. C'est de Blanqui, alors c'est peut-être pire, à la limite. Jaurès discute la phrase de Blanqui. Jaurès est patriote, c'est vrai. Mais Jaurès pense que la patrie aussi est quelque chose qui évolue et que donc la patrie est quelque chose de nécessaire et d'utile, mais qu'elle doit continuer à évoluer, à se transformer et qu'on va vers la patrie universelle.
Gilles Clandard a des jeunes gens de 16 ans qui, pour la première fois, ou 15 ans, qui pour la première fois entendraient parler de Jaurès, qui penseraient que c'est une avenue ou une place. Seulement, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment vous pouvez présenter un animal pareil, en quelques mots?
C'est difficile, parce qu'effectivement, c'est un continent. Hein, c'est immense. Je suis très ennuyé. Moi, en général, quand je commence à, à parler de Jaurès, justement, je crois qu'il faut enlever le côté.